Le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son premier-né. Elle enveloppa le linge et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans une salle des hôtes.
Alors, quand on en a parlé hier, avec les éclés, donc ils sont presque tous là, on s'est demandé pourquoi Joseph et Marie, qui est très enceinte, se mettent à voyager juste avant l'accouchement.
Elle se met à voyager parce que Auguste, il veut qu'on fasse un recensement pour compter le nombre de personnes dans le pays. Et voilà. Après, je n'ai
pas expliqué la suite. Et voilà, est-ce que ce recensement, il est facultatif? Parce que pourquoi ils y vont, c'est quand même pas très commode.
Il est obligatoire.
Pourquoi?
Je sais pas.
À votre avis, pourquoi il est obligatoire?
Parce que ça peut aider pour les impôts. On sait combien il faut payer pour les impôts.
Exactement. C'est sans doute une des raisons principales. C'est pas que ça va aider, c'est que ça va aider les Romains, qui sont l'armée d'occupation. Ils veulent savoir combien il y a de gens, comment ils vivent, combien ils gagnent, combien on peut leur demander, est-ce qu'on peut leur demander des services en plus, tout ça. On reparlera du recensement dimanche prochain. Donc... Et qu'est-ce que c'est au fait un recensement alors ?
Un recensement, c'est quand on va, nous, à notre époque, il y a des gens, ils viennent chez la gardienne et ils demandent combien il y a de personnes qui habitent dans l'immeuble. Et après, ils comptent le nombre de personnes qu'il y a, exemple en France, dans une ville, il peut avoir... une vingtaine de personnes et ils l'ajoutent à une autre ville et en tout, ils font le nombre de personnes dans le pays et puis après dans le monde.
Et quand on fait ça, on constate qu'il y a de plus en plus de personnes sur Terre. D'accord. Alors, est-ce que Joseph et Marie pensaient qu'ils allaient rester à Bethléem ? Peut-être... J'ai entendu non. Qui est-ce qui a dit non ?
Non.
Ils pensaient quoi ?
Ils pensaient qu'ils allaient repartir tout de suite après.
Et qu'est-ce qui s'est passé ? Garde le micro.
Elle a accouché.
Elle a accouché ?
Oui. Exactement, c'est ce qu'on nous dit. C'est le moment où elle est prise des douleurs de l'accouchement. On ne nous dit pas comme ça. Elle va accoucher et donc c'est plus possible de repartir. Et donc, ça explique pourquoi ils n'ont pas de logement. Où est-ce qu'on les met à l'abri ? Où est-ce qu'elle accouche ?
Dans une ferme.
Oui, on ne sait pas très bien.
Dans une mangeoire.
T'as tout à fait raison, on met l'enfant dans une mangeoire. Mais elle accouche dans... Une mangeoire, c'est quoi ? C'est une espèce de grande bassine, oui ?
C'est où les animaux, pour qu'ils mangent. Par exemple, où il y a de la paille, où il y a du foin.
Ou de la nourriture pour les animaux. Et où est-ce qu'on trouve ça dans les fermes ?
Dans les étables.
Oui, vas-y.
Dans les étables.
Voilà. Tu voulais dire quelque chose ?
Non, je voulais juste dire que c'est les étables.
D'accord. Désolée. Et donc, c'est pour ça que d'un seul coup, ils se trouvent sans logement et Marie obligée d'accoucher dans l'étable. Et c'est pour ça, comme tu l'as dit, qu'elle a mis l'enfant dans une mangeoire parce que voilà, ils n'avaient rien prévu, pas de berceau, rien. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce début dans la vie pour Jésus ? C'est un début facile, riche ?
C'est pas très facile parce que accoucher dans une ferme, c'est pas très pratique.
Oui.
C'est surtout, c'est pas sa ville. Surtout, c'est une ville, c'est pas ici qu'il habite. Et aussi, mais c'est pas très confortable non plus une mangeoire. Être là, parce que dans la paille, il peut y avoir des épines.
Il est quand même pas tout nu, hein. On l'a enveloppé dans des langes, t'as bien vu. Tu voulais ajouter quelque chose?
Bah, du coup, on voit que ça, son départ, c'est pas un départ de. Un très bon départ de quelqu'un, d'une personne, par exemple, riche, qui est née à un endroit où, direct, il peut être. On peut. Voilà.
Bref, exactement. Un endroit où il aurait une vie, où il est sûr d'avoir une vie facile. Là, c'est pas du tout le cas. Alors, le recensement. On en a parlé et je voudrais juste ajouter un petit commentaire à notre lecture, aussi pour les grands. Luc insiste beaucoup, Luc c'est celui qui a écrit cet évangile, et donc il insiste beaucoup sur le fait que Joseph est un descendant de David. Et c'est bizarre parce qu'en réalité on nous dit que Joseph c'est pas le vrai père de l'enfant en même temps, alors on comprend pas. Mais en fait c'est parce que c'est une manière de relier Jésus au roi David, de dire que c'est le descendant du roi David qui était le deuxième roi d'Israël, un des plus grands, celui dont on dit qu'il a construit Jérusalem. Il est à l'origine, pas tout seul, mais il est à l'origine de la construction de Jérusalem. Et il voulait même construire le temple, mais il n'a pas eu le temps, il est mort avant, et c'est son fils, le roi Salomon, qui l'a construit. Alors, est-ce qu'on sait si la naissance de Jésus s'est vraiment passée comme ça?
Non.
Voilà. Non. On n'en sait rien parce que, tout simplement, il y a une bonne raison d'abord. Quand Jésus est né, personne ne savait qu'il était ou qu'il deviendrait le Christ, le Messie que tout le monde attendait. Et donc, personne ne s'est occupé de sa naissance. C'est seulement après sa mort, quand les premiers chrétiens, les premières communautés des gens qui croyaient en lui, se sont regroupés, et quand ils ont commencé à raconter sa vie dans les évangiles, justement, c'est seulement à ce moment-là qu'ils ont essayé de retrouver l'histoire de sa naissance, des témoignages. Mais ça ne veut pas dire que c'est absolument vrai. Dans les évangiles, il y a plein d'histoires qui ne sont pas forcément tout à fait vraies, et ça ne nous empêche pas de les aimer. On va en reparler. Et alors, pour les plus grands d'entre nous, je voudrais juste ajouter une petite réflexion sur ce texte. Il nous présente, avec une erreur dont je reparlerai la semaine prochaine, il nous présente une opposition importante entre les puissants de ce monde, Auguste, l'Empire, le gouverneur de Syrie, d'un côté on a les riches, les grands, les puissants, et puis la naissance de l'enfant dont on a parlé, avec son mauvais début dans la vie, comme tu as dit. Pas forcément dans une famille pauvre, la famille n'est pas décrite comme pauvre, mais dans un environnement dépouillé, misérable. Et bien sûr, le fait qu'il n'y a pas de place pour eux dans la salle commune, ben ça annonce que dans sa vie, Jésus sera souvent rejeté. Et alors, le plus important dans ce texte, c'est que du coup, peut-être à cause de toutes ces circonstances, il s'agit d'une naissance tellement cachée qu'elle est, on pourrait presque dire qu'elle est secrète. Et vous vous rappelez, en tout cas ceux qui étaient là, qu'il y a quelque temps j'ai parlé de la visitation, la visite de Marie à Élisabeth, et j'ai dit que Luc a l'habitude de mêler le sacré à l'intime. Et bien ici, bien sûr, pour l'instant, on est dans le domaine de l'intime. Le sacré est caché à tout le monde. Et c'est pas par hasard. Il va être révélé à quelques personnes, mais ce sont des personnes un peu marginales. On va l'entendre. C'est Raphaël qui va nous le lire.
Il y avait, dans la même région, des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé dans des enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. »
Merci beaucoup. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont peur, les bergers ?
Parce que c'est pas habituel de voir un ange comme ça qui apparaît.
Non, t'en as déjà vu un, toi ?
Non.
Surtout quand ils en voient plusieurs,
oui,
qui apparaissent comme ça, par magie.
Comme par magie.
C'est dans le noir, la lumière que les anges ils font quand ils apparaissent, bah, ça fait quand même mal aux yeux, ça fait peur.
Et qu'est-ce qu'on appelle, justement, cette lumière, elle a un nom dans le texte. Je vais vous le relire, je pense. Oui ?
La bénédiction de Dieu, la gloire de Dieu.
Oui, c'est exactement ça, c'est la gloire de Dieu. C'est ce qu'on appelle dans l'Ancien Testament la gloire de Dieu, cette espèce de d'aura qui peut être aussi une nuée qui apparaît et qui est censée effectivement représenter la présence de Dieu d'une manière ou d'une autre. Alors, qu'est-ce que l'ange leur dit pour les rassurer ? Je voudrais bien entendre des grands là un petit peu par ici. Oui, ou des petits que je n'ai pas encore entendu.
N'ayez pas peur.
Oui. Et pourquoi n'ayez pas peur ? Si tu ne sais pas, tu passes à la carte.
Bah, parce qu'ils sont effrayés de voir un ange. Bah parce qu'il y a quelqu'un qui est né dans une ferme. Et normalement, on n'est pas dans une ferme.
Il y a quelqu'un qui veut répondre derrière toi.
Ah non.
Vas-y.
Et c'est le Fils de Dieu, alors il est important.
Le texte ne nous dit pas que c'est le Fils de Dieu. Il nous dit que celui qui est né est...
Et le Sauveur.
Le Messie.
Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de sauveur ? On en a parlé hier, vous vous rappelez ? Et on a dit qu'est-ce que ça veut dire être sauvé, sauveur ? C'est un gros problème, hein ?
Être aidé ?
Aidé ? Être aidé par qui ?
Par le Messie.
Et être aidé après...
Par quelqu'un ? Dans quelques années, quand il aura grandi.
Pendant sa vie.
Oui.
Ah, vas-y. Alors. Pour nous, aujourd'hui, pour vous, on en a parlé hier, un sauveur, vous l'avez dit, c'est surtout quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, qu'on le voit ou pas, nous aide et nous accompagne pendant notre vie. Et il nous aide à quoi, au fait ?
Souvent, sauver, c'est quand on est en danger de mort.
Alors là, on arrive dans une très grande question. On ne pourra pas la résoudre aujourd'hui. Est-ce que le sauveur nous sauve aussi après notre mort ? On ne peut pas savoir. Mais aujourd'hui, un sauveur, ça peut être effectivement, considérer Jésus comme un sauveur, ça peut être penser qu'il nous aide en donnant un sens à notre vie, et on va en parler. Alors, justement, pourquoi des bergers ? Pourquoi c'est des bergers qui découvrent Jésus ?
Bah, comme il est dans une ferme, et ben, il ne va pas avoir des rois qui vont passer devant une ferme comme ça. C'est plutôt des bergers.
Enfin... Ah. Et pourtant, bientôt, on va fêter les rois. Et alors, qui raconte que les rois y sont allés, oui.
C'est des bergers qui passent parce que les bergers ils gardaient les moutons dans les champs et quand tu gardes des moutons dans les champs la nuit et ben ça se voit.
Oui. s'il y a une apparition la nuit, on peut la voir, d'accord. Mais aussi, les bergers, à ce moment-là, même si Israël est un peuple de bergers, des nomades, des gens qui vivaient sous des tentes à l'origine hein, et qui se déplaçaient avec leurs troupeaux, au moment de la naissance de Jésus, ça va ? Au moment de la naissance de Jésus, beaucoup de gens vivaient dans des villes, pas des villes comme les nôtres, hein, mais des villes quand même. Et au fait, vous savez ce qu'elle veut dire, ce qui veut dire le nom de la ville de Bethléem ? Ça veut dire la maison du pain. Ouais, ça veut dire que sans doute, à Bethléem, il n'y avait pas forcément tellement de bergers, mais peut-être des gens, des cultivateurs, ou des gens voilà, qui s'occupaient de tout ce qui concerne le pain, des boulangers. Et donc, depuis plusieurs siècles, déjà, les gens s'étaient divisés en fonction de leur travail. Et bien sûr, quand les gens se divisent en fonction de leur travail, il y en a tout de suite qui pensent qu'ils sont mieux que les autres. C'est normal, c'est humain, c'est comme ça. Et les bergers, ben, tout le monde pensait qu'ils étaient moins bien que tout le monde. Ils étaient un peu en bas de l'échelle. Ils n'étaient pas dans leur maison, ils n'avaient pas forcément des beaux habits. Et les gens qui étaient bien installés ne les aimaient pas tellement. Ils vivaient dehors. Et puis, il y avait même eu des gens pour critiquer les mauvais bergers. Et puis, il y avait d'autres traditions, des histoires qui circulaient, des histoires qui n'étaient pas des histoires de la religion, mais des histoires grecques, par exemple. La mythologie grecque, vous en avez peut-être un petit peu entendu parler. Et bien, dans la mythologie grecque, il y a des bergers qui découvrent des enfants rois. Et peut-être que Luc s'est aussi servi de cette histoire, peut-être qu'elle l'a inspirée. On ne sait pas. Celui qui a écrit l'évangile, il s'est sûrement servi de tout ça. Mais moi, ce que je trouve le plus important, justement, c'est ce que l'ange leur dit, ce que vous avez dit. Vous avez un sauveur, le Messie, c'est le Seigneur. Et tout de suite après, il leur dit, c'est un nouveau-né dans une mangeoire. Mais excusez-moi, mais qu'est-ce qu'ils ont dû penser quand on leur a dit un sauveur, le Messie, le Seigneur ? Ils ont dû penser, comme vous l'avez dit tout à l'heure, même si c'est un bébé, mais il doit être dans un environnement riche et puissant. Et là, les bergers, on leur dit quelque chose de très, très étonnant. Ce qu'ils entendent, pardon, c'est quelque chose de très, très étonnant. Comment ? Redis-le.
Il est dans une mangeoire.
Voilà, il est dans une mangeoire. C'est quand même pas brillant. Il est enveloppé comme un pauvre. Et il n'a même pas de berceau. Et c'est pas un détail, parce que Luc insiste bien. C'est un signe. C'est à ce signe-là que vous le découvrirez. Vous le reconnaîtrez à ce signe-là parce qu'il est justement dans un environnement pauvre. Ne cherchez pas la puissance du Seigneur Dieu dans la force et la richesse, car la puissance du Seigneur Dieu est cachée dans la plus grande fragilité. Arrêtez. Dans le lieu le plus inattendu. Et l'autre message important de cette histoire, ça va nous amener à la troisième partie, c'est que pour trouver Jésus, il faut faire comme les bergers. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les bergers ? Ben, ils y sont allés. Il faut se lever, il faut sortir de ses habitudes et il faut se mettre en marche. Et donc, on va écouter comment les bergers ont réagi et ce qu'ils ont trouvé.
Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph, ainsi que le nouveau-né, couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'ils leur disaient. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis, les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé.
Merci beaucoup. Quand on en a parlé hier, je vous ai demandé pourquoi les bergers se mettent en marche. Alors, pourquoi les bergers se mettent en marche ?
Pour voir si les anges ils leur avaient dit vrai.
Et alors ?
Bah, c'était vrai.
Bah, ils sont allés regarder parce que ça pouvait être intéressant, ça pouvait... Peut-être qu'ils pourraient devenir célèbres parce qu'ils ont vu le sauveur.
Et peut-être que si on leur disait, il vous est né quelqu'un qui va vous aider, qui va vous accompagner. Et s'ils ont des difficultés dans la vie, parce qu'on a bien compris que c'est des gens qui ont des difficultés dans la vie, peut-être qu'ils sont contents de cette nouvelle. Peut-être qu'ils ont envie de... Oui ?
Bah oui, c'est sûr. Puisque comme ils sont pauvres, ils ont peut-être besoin de quelqu'un pour les aider à faire leur vie.
Pas forcément les aider en leur donnant de l'argent.
Les aider en leur donnant du courage.
Par exemple. Alors, en fait, dans cette partie de l'évangile de Luc, la bonne nouvelle passe par les bergers. Dieu leur a envoyé la bonne nouvelle par l'intermédiaire de l'ange, mais ils n'étaient pas, écoutez bien parce que c'est important, ils n'étaient pas obligés de le croire. Hein, ils n'étaient pas du tout obligés. Et en fait, ça aurait été tout à fait normal qu'ils ne le croient pas. Et c'est pour ça que notre ami Luther a commenté ce texte en disant que les premiers chrétiens, bien avant les apôtres, c'était justement ces bergers. Ce sont les premiers qui ont entendu la nouvelle, le nouveau-né là-bas dans son étable, celui dont on pourrait penser qu'il a été déposé presque n'importe où, c'est lui qui représente le lien tellement attendu entre le Dieu unique que personne n'a jamais vu et les humains qui ont tellement besoin de le rencontrer qu'ils l'attendent depuis des siècles. Et Luc insiste bien pour nous dire que tout ça s'est passé exactement comme l'ange l'avait annoncé au berger, comme tu l'as dit. Et alors donc, toute cette histoire serait absolument vraie? Mais hier, quand on en a parlé, j'ai eu l'impression qu'il y en a qui avaient du mal à y croire.
Ça dépend les croyances. Si on croit en Dieu, on pense que l'histoire est vraie. Si on ne croit pas, on pense que c'est faux.
Et on ne peut pas être entre les deux ?
Ben si, mais... Il peut y avoir une part de vérité et une part d'imagination.
Et par exemple, qu'est-ce qui te paraît, à quoi tu crois pas
Bah, par exemple, aux anges qui apparaissent comme ça, c'est pas... Je pense que ça, c'est plus de l'imagination.
Et alors, c'est quoi la vérité?
Bah, qu'il y a une personne que Jésus est né dans une ferme, ça peut être réel.
Merci. Quelqu'un d'autre ? Il est là, Maxime ? Il se cache ? Alors, hier, Maxime, il m'a dit qu'il avait beaucoup de mal à croire à cette histoire et que restez par ici. Et que même il préférait penser que c'était pas vrai. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, par ici ?
Mouais ? Vas-y, redis-le.
Mouais.
Mais après, j'ai demandé, est-ce qu'on aime cette histoire ? Et là, j'ai eu des réponses tout à fait différentes. Vas-y.
Bah oui.
Pourquoi ?
Bah parce que
Oui, parce que c'est bien, ça raconte une belle histoire quand même.
Et pourquoi elle est belle ?
Parce que c'est la naissance d'une personne qui a créé une religion.
Entre autres, oui, effectivement. C'est la naissance d'une personne qui a participé à l'évolution d'une religion et à cause de qui une autre religion s'est créée. C'est vrai. Oui ? Tu voulais dire quelque chose ? Et hier, quelqu'un m'a dit, c'est une belle histoire, on a envie d'y croire. Alors, la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire, croire ? Est-ce que ça veut dire, comme tu as dit tout à l'heure, comment Clotilde, est-ce qu'on est obligé de croire tous les détails ?
Non.
Mais on peut en croire quelques-uns. Oui,
mais oui. Ben moi, je pense que les anges aussi, c'est de l'imagination et certaines choses aussi. Et que d'autres, ça s'est vraiment passé. Et tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut.
Alors, on a du mal à y croire. Et bien sûr, c'est normal et on a raison. Et on peut très bien fêter la naissance de Noël, et la naissance de Jésus, sans croire que tout s'est passé exactement comme c'est raconté. Mais ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, à tous, c'est que croire, ça ne veut pas forcément dire qu'on pense que tout s'est passé de cette manière. Croire, ça veut dire aimer. Comme tout à l'heure, les ouvriers qui ont attendu la dernière heure pour se décider. Eh bien, moi, par exemple, je crois à cette histoire, ça veut dire que je l'aime. Je ne suis pas du tout sûre qu'elle s'est passée exactement comme ça. Et ça m'est égal. Parce que j'aime cette histoire. Pourquoi ? Parce qu'elle m'explique. C'est ce que tu as dit tout à l'heure quand tu as parlé de la religion. Elle m'explique ce que Jésus représente pour les humains depuis 2000 ans. Plus de 2000 ans. J'aime cette histoire parce qu'elle me donne envie de faire comme les bergers. Et j'espère que vous aussi, elle vous donne envie de vous lever, de chercher Jésus, de chercher Dieu. Alors, pendant les bergers, ils ont fait un voyage. Et pendant le voyage de votre vie, ce voyage, vous le commencez. Et bien, pendant ce voyage, à cause de Noël, il y aura peut-être des jours où vous vous lèverez au milieu de la nuit. Vous regarderez par la fenêtre en disant « Tu es là, tu es où, Dieu ?» Vous regarderez les malheureux et vous essaierez de les aider parce que vous vous direz « Jésus est là, avec eux, comme il y a 2000 ans, dans sa mangeoire. » Et quand on cherche, on n'a pas toujours la chance d'héberger. On ne trouve pas toujours, et même quand on trouve, ce n'est pas exactement ce qu'on cherchait. Mais, de temps en temps, j'ai presque fini. De temps en temps, sans qu'on s'y attende, comme les bergers dans leur pré, on découvre que Dieu n'est pas loin, que grâce à Jésus, il est plus proche de nous, tout proche quelquefois. On comprend qu'il nous accompagne de son esprit, et c'est peut-être comme ça qu'il nous sauve, qu'il accompagne tous les êtres humains, comme il a accompagné les bergers jusqu'à Bethléem. Et on comprend donc qu'on n'est pas seul. Et on est plus heureux. Voilà. Amen.